Les réseaux, c'est quoi? C'est sans attendre la fin de la thèse, hein, surtout pas. Et même, on devrait commencer à activer des réseaux dès la troisième, dès la seconde. C'est dès qu'on a des idées de pistes, des idées d'environnement de travail, des idées de missions particulières, des envies de capacités professionnelles à exploiter particulières qui vous sont propres, vers quel type d'environnement j'ai envie d'aller questionner. Or, le gros souci que je retrouve avec vous, c'est souvent, et puis sur beaucoup de personnes, hein, vous n'êtes pas les seuls, c'est que vous avez tendance à vouloir d'abord trouver votre projet, donc exactement ce que vous voulez faire, pour après envoyer des candidatures et aller rencontrer des professionnels. Je pense que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Je pense qu'il ne faut pas du tout réfléchir au but. Pardon, il faut surtout pas réfléchir aux moyens, il faut réfléchir qu'au but. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des envies d'utiliser une mission particulière parce que c'est une compétence clé chez vous, elle vous est propre. Et ce n'est pas parce que vous faites une thèse, la même thèse que votre voisin aura forcément envie d'utiliser la même mission, la même tâche que vous. C'est très personnel ce que je suis en train de dire. Ben, tiens, vers où je peux aller, dans quel environnement je peux aller pour rencontrer une entreprise qui pourrait utiliser particulièrement cette mission-là, cette tâche-là. Déjà là, ça vaut la peine d'aller rencontrer des gens. Tiens, j'ai envie absolument de rencontrer des chefs de projet parce que j'en ai vu deux, trois là dans mon parcours professionnel. Je me rends compte qu'un chef de projet, il utilise des capacités professionnelles qui me collent vraiment. Tiens, je vais aller voir carrément des chefs de projet. Donc parfois, c'est une fonction qui vous intéresse. Parfois, c'est uniquement un domaine de connaissances. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller rencontrer des professionnels, c'est justement aller enquêter pour leur poser des questions, pour avoir des réponses sur, tiens, est-ce que je suis sur la même longueur d'onde et du coup façonner mon projet. Et c'est en allant rencontrer les professionnels qu'on active des réseaux et qu'on rencontre des personnes avec qui on va échanger. Hors contexte de recrutement, le but, c'est de ne pas vous vendre. Le but, c'est juste d'échanger avec ces professionnels, leur poser des questions sur ce qu'ils font. C'est quoi pour vous une bonne journée? C'est quoi l'émission centrale pour votre travail? À votre avis, qu'est-ce qui fait que on a des chances de travailler chez vous? Quels sont les profils qu'on recherche? Donc ces échanges-là, hein, où le but c'est quoi? C'est juste se renseigner sur un métier, se renseigner sur un ciblage, se renseigner sur une fonction, se renseigner sur un environnement de travail. Et c'est seulement après qu'on réfléchit à postuler ou non. On n'est que dans un échange. Et donc forcément, ce que je dis toujours, on évite le CV. Parce que le CV est un outil extrêmement dangereux. Le CV, on évalue quelqu'un sans le connaître. On évalue une personne sans la connaître. Et tant qu'on n'a pas vu quelqu'un, on ne peut pas du tout jauger sur comment on peut se projeter avec elle. En tout cas, moi, en recrutement, c'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, malheureusement, on est obligé, quand on a un CV, de faire des premiers tris. Donc l'idée, c'est d'essayer aussi d'activer des réseaux pour éviter d'être recruté par CV. Et donc, personnellement, moi, j'ai jamais utilisé de CV. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en allant rencontrer les professionnels pour affiner un profil, pour rencontrer des gens parce qu'on s'intéresse réellement à eux. Hein. Ce n'est pas du bluff. Hein. Il y en a qui me disent oui, mais en fait, en réalité, je m'en fous. Ce qui compte, c'est savoir s'il y a y a des postes. Si vraiment vous le faites dans cette démarche-là, ça ne marchera pas. J'y crois absolument pas. Donc on n'a pas de CV. On ne se prépare pas à un entretien de recrutement, on n'y va pas pour coller à un poste, on y va pour rencontrer des professionnels. Et donc, du coup, on prépare des questions. Des questions qui vous sont propres par rapport aux questions que vous vous posez vraiment. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un échange. Et puis, comme vous vous intéressez au professionnel qui n'a pas l'habitude du tout qu'on s'intéresse à lui, bah, il va forcément s'intéresser à vous. C'est ce qui se passe, hein. Et du coup, il va avoir envie de vous donner des conseils. Et donc, il va forcément vous donner d'autres noms de professionnels. En moyenne, il y en a deux, trois, hein, sur des gens qui pourraient continuer à répondre à vos questions que vous vous posez. Et du coup, bah, vous y allez de la part d'eux. Et après, alors, certains disent c'est du piston. Moi, je n'appelle pas ça du piston, j'appelle ça du réseau activé. Et puis, ce qu'il faut, c'est l'activer dès la première année de thèse, même avant, je dirais même la seconde, hein, dès la seconde. C'est-à-dire que ben après, c'est un agenda avec tous les mois qui je vais aller voir, quoi. Aujourd'hui, peut-être, par rapport à mon réseau à moi, peut-être qu'il y a des profils de personnes qui vont venir, qui vont échanger avec moi sur ce qu'elles font, et puis peut-être que je vais penser à des gens, ou à des postes, ou à des environnements de travail qui pourraient vous correspondre. J'en sais rien. Mais peut-être que oui. Alors, plus vous vous éloignez évidemment des professionnels en lien, moins il y a de chances que vous ayez des réponses. Hein. Donc, bien évidemment, il faut partir vraiment d'une réflexion en termes d'environnement, en termes de pistes, pour aller activer des réseaux. Voilà. Alors, bien évidemment, je pense que vous connaissez aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être très efficace pour activer. Donc, je crois que il y a Viadeo, évidemment, mais il y a aussi LinkedIn qui marche très, très bien par rapport à vos profils scientifiques. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que l'idée, c'est vraiment de profiter de la journée rencontre entreprise de fin mai, où quelque part, j'ai envie de dire, s'ils viennent, ils viennent pour parler d'eux aussi, et ils viennent aussi en étant prêts à répondre à vos questions. Donc c'est beaucoup plus facile d'enclencher un échange lors de ces journées que de commencer à prendre son petit sac et d'aller taper aux portes. Hein. Donc ça peut être un bon démarrage, ça, l'activation des réseaux, les enquêtes, en allant à cette journée rencontre docteur entreprise. Parce qu'ils sont là pour s'exposer sous forme de stand, pour répondre à vos questions, pour faire de la pub, pour parler d'eux aussi. Donc quelque part, ils sont prêts. Alors on pourra parler de la méthode. Hein. Moi je fais la formation donc justement le 12 et le 16 sur les réseaux et la méthode. Mais la méthode, bon, l'idée c'est vraiment d'aller questionner les professionnels. Alors en moyenne, quand vous vous déplacez, vous avez un entretien pour 3 déplacements, ce qui est pas mal. Je ne sais pas si vous envoyez une candidature spontanée, vous allez avoir un entretien après 3 envois. Alors le problème de la candidature spontanée en plus, c'est que s'il n'y a pas de besoin, ils ne vont pas vous recevoir. Là, on n'est pas sur répondre à un besoin. On est sur est-ce que vous avez 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de votre temps à me consacrer pour m'éclairer sur ce que vous faites. Il n'y a pas de poste derrière, forcément. L'idée, c'est juste un échange. Vous voyez la nuance ? Et c'est parce que vous êtes sur cette nuance-là qu'il y a des entretiens. Et derrière ces entretiens, c'est eux qui sont stressés d'ailleurs, parce que c'est eux qui doivent parler de leur métier. Hein. Attention, hein. C'est eux qui répondent à vos questions. Hein. Vous êtes de l'autre côté. Hein. C'est vous qui évaluez quelque part si ce professionnel vous renvoie quelque chose que vous avez envie de faire ou pas. Donc généralement, ces professionnels, non seulement ils aiment ce qu'ils font, donc ça c'est intéressant, parce qu'ils sont prêts à communiquer, à échanger avec vous. Généralement, c'est ce qui se passe. Et en plus, ils sont vraiment touchés, je vous le dis vraiment. Moi, suite à des retours avec les employeurs et les professionnels, ils sont toujours très touchés du temps qu'ils ont pris avec vous. Alors, ils ont généralement que 10 minutes. Et puis, comme par hasard, ça dure en moyenne 3 quarts d'heure. Parce que quand on prend du temps avec quelqu'un, on a envie que ça dure, quoi. Alors, c'est sûr que ça ne va pas être des questions sur le chiffre d'affaires, sur comment il a été recruté, sur est-ce qu'il subit de la pression. Ça ne va pas durer longtemps, et son salaire. Hein. Ce n'est pas ça, les questions. Les questions, c'est vraiment sur lui, comment il se voit, est-ce qu'il aime son métier, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi une journée de travail. Ça pourrait être intéressant de tester. Moi, je dis souvent, si vous n'osez pas, c'est d'aller peut-être commencer à tester ça en le vivant vous-même. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un que vous connaissez bien, à la limite, si possible, quelqu'un qui ne partage pas du tout votre expérience professionnelle, de vous poser des questions sur votre métier. Et voilà, t'imagines que tu as envie d'être peut-être dans ma discipline, donc tu viens me voir et tu me poses des questions. Vas-y, je t'écoute. Puis vous allez voir que c'est super intéressant à un moment dans son parcours de se poser et de dire, bah oui, pourquoi j'aime mon métier, pourquoi je le fais, donc pourquoi je fais cette thèse, qu'est-ce que j'aime bien dans ma thèse, qu'est-ce que ça m'apporte de faire une thèse, comment je raconterai ma journée de travail au labo, avec qui je suis en partenariat, quelles sont les équipes de travail avec lesquelles je suis. Je ne sais pas, moi j'aurais envie de vous poser ce genre de questions. Je pense si j'avais envie de faire une thèse. J'ai eu envie un moment, puis je n'ai pas fait, parce que ça m'a fait peur. Parce que je pense que c'est un travail énorme qu'on vous demande, qui n'est pas forcément toujours bien valorisé par vos équipes. Je généralise. Et je trouve que c'est une période qui n'est pas simple. Et on vous demande beaucoup. Et puis il faut savoir aussi rédiger, il faut savoir être très méticuleux, il faut savoir être tenace, il faut être très persévérant, être capable de fonctionner avec une réelle méthode de travail, sinon on se fait vite manger par le temps qui passe. Et puis je pense qu'il faut savoir aussi prendre beaucoup d'initiatives. Enfin, c'est des ressentis que j'ai à force de vous rencontrer. Et ce qui est terrible aussi, c'est que quand je discute avec des recruteurs, c'est « Oh là là, moi si demain j'ai en recrutement un doctorant, ou en tout cas un docteur, c'est sûr que je m'attends à quelqu'un qui soit limite, qui manque d'humilité. » Parce qu'on se dit souvent, alors je sais que ça vous énerve, hein, Mais souvent, on se dit, oh là là, tu fais une thèse. On le dit, je suis sûre, dans vos environnements familiaux. Oh, tu fais une thèse, oh là là, mon Dieu, quelle chance. Moi, je n'ai pas l'intelligence pour. Oh, c'est extraordinaire. Hein? Alors, vous dites, ouais, ça ne veut rien dire, c'est pas vrai. Oui, je suis d'accord. Hein. On peut faire une thèse et pas forcément avoir toutes les intelligences, hein, notamment l'intelligence pratique. Hein. On l'a pas forcément quand on fait une thèse. On a forcément des défauts comme tout le monde, hein, c'est ce que je leur dis. Hein. Mais généralement, on s'attend à ce que vous soyez super sûr de vous. Et or, je remarque qu'en réalité, vous avez une humilité incroyable. Et l'humilité, c'est quelque chose qui, selon moi, est extrêmement dangereux. Je pense que, après, c'est encore un avis, je pense qu'il faut juste un juste milieu. Je pense qu'il faut être conscient de ses forces et de ses faiblesses, mais il faut être capable de se mettre en avant, dire « voilà, moi je suis très bon pour ça, en tout cas je peux être encore meilleur, mais je sais que je suis bon là-dessus, je sais que je suis plutôt pas mal là-dessus et que j'ai des progrès à faire là-dessus. Je sais que j'ai telle et telle qualité avec telle raison, donc j'explique pourquoi j'ai telle et telle capacité et telle qualité, et je suis expert dans tel domaine. » Je pense qu'on est tous capables, normalement, de faire ça. Le problème, c'est que les collègues qui font du recrutement et qui voient des CV avec des thèses, ils se disent, ils s'attendent à avoir un profil parfois école supérieure de commerce, je généralise aussi, hein, où ça va être moi-je parce que. Et en fait, le moi-je, il est rarement présent chez vous. Parce qu'il y a énormément, je le redis, d'humilité. Je généralise, hein, je vous connais pas évidemment personnellement, hein. Mais il y a beaucoup d'humilité. Les personnes que j'ai, notamment à l'espace cadre avec Béatrice, suite à vos inscriptions à l'espace cadre, j'entends souvent dans vos discours, au niveau de vos compétences, que vous verbalisez, c'est « on m'a demandé d'eux, il a fallu que », et pas « je suis capable d'eux et je sais faire ». Je pense que c'est central. Alors ça aussi, la valorisation de soi, la confiance en soi, ça s'acquiert. Je pense que les gens qui sont à l'aise avec eux-mêmes, qui s'aiment, qui se font confiance et qui sont conscients de leurs limites, c'est des gens qui ont bossé avant. Je pense qu'on ne peut pas, comme ça, en claquant des doigts, être capable de se présenter en 5 minutes. D'ailleurs, la thèse, en combien de secondes, hein, c'était là tout à l'heure, c'était accroché. Hein. Ça se travaille, hein, et c'est une compétence nouvelle. Être capable de parler de soi en 5 minutes, être capable de définir son profil professionnel, son identité professionnelle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et je pense que vous êtes tout à fait capable, chacun à votre niveau, hein, de faire ce travail.